Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vous écoutez 6ème Science. C'est une mine d'or, et je le dis dans les deux sens du terme. Au premier, car la Rinconada, perchée à 5300 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, s'est développée autour d'une exploitation minière, au sens figuré parce que la ville la plus haute du monde est une anomalie. Là-haut, le taux d'oxygène est réduit de moitié, et pourtant, 50 000 âmes y mènent une vie aussi normale que la vôtre ou la mienne. Comment adultes et enfants s'adaptent-ils à ces conditions extrêmes? Chaque année, l'expédition 5300 menée par des chercheurs français tente de le comprendre. Et je ne vais pas faire traîner cette introduction plus longtemps. Dans mon studio qui plafonne à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, il y a pourtant peu de risques que je m'essouffle. J'ai juste trop envie de céder la parole à Camille Gobert, journaliste à Science et Avenir, qui saura bien mieux que moi nous entraîner dans les montagnes péruviennes. Bonjour Camille.
Bonjour.
Il faut qu'on s'arrête sur l'introduction justement de ton article dans le numéro 926 de Science et Avenir. J'ouvre les guillemets. Nous pensions qu'il était impossible pour l'être humain de vivre en permanence à plus de 5000 mètres d'altitude. Je ferme les guillemets. C'est Samuel Vergès que tu vas nous présenter qui tient ces propos. En quoi la barre des 5000 est-elle si implacable et si dure pour un corps normalement constitué?
Oui, donc Samuel Vergès, c'est un directeur de recherche de l'INSERM qui s'intéresse aux effets du manque d'oxygène, donc de l'hypoxie, sur le corps humain. Et donc, lui, dans sa conception, la vie ne serait pas possible à l'année, en tout cas, en dehors d'une manière vraiment transitoire, au-delà de 5000 mètres d'altitude, tout simplement parce que, comme tu l'as précisé, il n'y a que moitié moins d'oxygène à cette altitude. Donc, c'est pas censé être une quantité d'oxygène qui est propice à une vie sur le long terme. Et donc, les chercheurs ont été très surpris de voir qu'il existait depuis des décennies des gens, 50 000 personnes quand même, qui vivent au-delà des 5 000 mètres d'altitude à l'année.
Afin qu'on comprenne bien ce qui se passe et ce que cette hauteur de 5300 implique, quand nos scientifiques montent à la Rinconada, comment l'altitude les affecte-t-elle?
C'est des scientifiques qui sont par ailleurs très sportifs, qui sont sur leur temps libre déjà, des gens qui sont des montagnards, ils sont à Grenoble hein, à l'année. Et pourtant, même eux, quand ils montent à la Rinconada, ils rapportent qu'ils sont à bout de souffle. Dès qu'ils parlent, en fait, ils sont essoufflés. Quand ils marchent, ils ont beaucoup de mal à dormir, ils peuvent avoir des maux de tête. Puis bien sûr, il est très difficile pour eux de suivre les habitants à leur rythme. Hein. Les enfants qui jouent au foot, ils jouent pas vraiment au foot avec eux, hein, ils participent pas trop. Quand ils descendent dans les mines pour voir les conditions de travail des mineurs, parce qu'il faut voir quand même que c'est des populations qui non seulement vivent avec moitié moins d'oxygène, mais qui ont un mode de vie qui est très compliqué, un métier qui est très physique. Pour eux aussi, c'est très dur, hein, et les habitants, ils doivent ralentir pour que les scientifiques puissent les suivre.
On est parvenu sur l'histoire de la Rinconada, cette ville donc qui ne devrait pas exister. Quand et comment la Rinconada a-t-elle été fondée? Est-ce que tu sais si son établissement à cette altitude donc de 5300 mètres a pu poser problème?
Donc la Rinconada, c'est une ville qui a toujours été explorée depuis des siècles. Même les Incas y montaient pour chercher de l'or, mais ils ne s'y établissaient pas à l'année. Et c'est vraiment depuis les années 90 que les mines d'or ont vraiment été exploitées en continu et que cette population s'est installée là-bas.
Revenons à notre expédition 5300. Par rapport à ce que les chercheurs s'attendaient à trouver, j'ai l'impression que les résultats de leurs observations sont optimistes, notamment chez les enfants. Est-ce que ça veut dire qu'on grandit aussi bien à la Rinconada qu'à Lima, la capitale du Pérou, qui elle plafonne à une centaine de mètres d'altitude?
Alors, on grandit pas tout à fait aussi bien à la Rinconada. Disons que les adaptations qui peuvent tourner vers le pathologique sont moins visibles à l'enfance qu'elles ne le sont ensuite à l'âge adulte. Mais on voit déjà des premières traces chez certains individus, chez certains enfants. Les prémices de ce qui pourrait devenir ensuite des problèmes à l'âge adulte. Le cœur qui est un petit peu trop épais, les signes de manque d'oxygène qui font des ongles un petit peu épais, un peu courbes, qu'on voit aussi en France, hein, mais souvent plutôt chez des gros fumeurs, enfin chez des personnes qui ont vraiment des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Donc, disons que dans les premières années, on ne voit pas autant de différence que ce à quoi la pédiatre Alexa Garros, qui est au CHU de Grenoble, s'attendait à constater. Elle s'attendait à voir un peu plus de troubles neurologiques, par exemple, de développement, puisqu'on sait que le cerveau a besoin de beaucoup d'oxygène pour se développer dans les premières années. Et en vérité, elle n'a pas vu une énorme différence. Il se trouve que ces enfants, en fait, profitent assez bien de leurs adaptations génétiques. Oui, ils parlent un peu plus tard que ce qu'on voit habituellement en France, hein, à 3 ans. Ils marchent un petit peu plus tard aussi, plutôt à 18 mois, mais ils n'ont pas forcément comparé par rapport à ce qu'on voit à Lima. Ensuite, il y a aussi un effet de la précarité qu'on ne peut pas tout à fait mesurer, qui fait que les enfants ne sont pas forcément stimulés de la même manière. Mais globalement, les enfants vont mieux que ce à quoi ils s'attendaient, que ce qu'ils craignaient, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Tu es en train de me dire que ces enfants, finalement, bénéficient d'un avantage générationnel issu de leurs ancêtres.
Tout à fait, oui. Ils sont issus de lignées de gens qui ont vécu depuis des siècles et des siècles à environ 4000 mètres d'altitude, hein, là où il y a les autres villes de Juliaca, de Cusco, les villes qui sont un petit peu en altitude, même si elles sont moins hautes que la Rinconada. Et donc, c'est des gens qui ont vraiment des adaptations génétiques tout à fait particulières qui leur permettent de vivre une vie tout à fait normale à 4000 mètres. Mais la barre des 5000 mètres, même pour eux, elle n'est pas sans conséquence.
Oui, notamment pour le cœur.
Notamment pour le cœur, en fait, tout part du manque d'oxygène. À 5300 mètres, il y a moitié moins d'oxygène qu'en plaine, ce qui fait que pour que le corps fonctionne, il faut compenser. Donc autant Samuel Vergès m'avait dit qu'au Tibet, par exemple, des gens qui vivent très en altitude et qui ont aussi des adaptations génétiques, mais qui sont différentes, ont un volume pulmonaire, eux, qui s'est adapté. Donc, ils arrivent à avoir un petit peu plus d'air. Mais à la Rinconada, c'est pas cette voie-là que leurs ancêtres ont construit génétiquement. Eux, ils compensent le manque d'oxygène en produisant plus de globules rouges, donc nos cellules sanguines qui servent à transporter l'oxygène. Plus on en a, mieux on transporte l'oxygène, plus on s'oxygène les muscles, les cellules, etc. Et d'ailleurs, quand on est un athlète assez entraîné, on augmente son nombre de globules rouges. Donc typiquement, une personne comme toi et moi, on a environ 40% de notre volume sanguin qui est constitué de globules rouges, c'est ce qu'on appelle l'hématocrite. Pour un athlète un peu entraîné, on va aux alentours de 50%. À 4000 mètres d'altitude, les Péruviens qui ont cet héritage générationnel, ils sont à 56% environ. Mais à la Rinconada, leur avantage de pouvoir produire des globules rouges à la hauteur d'un athlète très entraîné, en fait, est poussé au maximum, au point qu'on arrive à des hématocrites de 80-85% du volume sanguin qui est constitué de globules rouges. Le sang devient donc très épais. Pour compenser, ils en ont un énorme volume, deux fois plus que ce qu'on a nous en plaine.
Ouais, c'est ça, 10 litres de sang.
Tout à fait, 10 litres, alors que nous, on est plutôt à 4-5 litres. Et donc, ce qui fait qu'ils ont un sang qui est extrêmement épais, une espèce de mélasse qu'il faut pomper très fort. Donc, les ventricules se dilatent, le muscle cardiaque s'épaissit pour pouvoir pomper ce sang extrêmement épais. Les vaisseaux sanguins se dilatent aussi au maximum. Donc, on a vraiment un corps qui est poussé dans ses retranchements pour pouvoir vivre du peu d'oxygène qu'ils ont.
Quand j'ai lu ton dossier, je me suis dit, ok, en fait, ils ont du ketchup dans le sang.
Ben, c'est complètement ça. D'ailleurs, quand les scientifiques ont essayé au tout début de faire des prélèvements, leur sang a bouché la machine de prélèvement. Ils n'arrivaient pas à prélever correctement, ils ont vraiment eu du mal. Et Samuel Vergès lui-même disait que si on s'injectait le sang d'une personne qui vit à la Rinconada, nous, petits Français de plaine, on ferait un accident vasculaire cérébral, un AVC, hein, dans les quelques minutes ou quelques heures qui suivent, parce que ben, pour nous, ce serait quasiment un caillot, en fait.
Ouais, c'est ça, un bouchon, ou même ça pourrait faire péter un vaisseau sanguin au niveau du cerveau. Quoi.
C'est ça.
Donc le corps de nos amis habitants de la Rinconada est poussé, tu l'as dit, dans leur dernier entranchement, mais pour la peine, est-ce qu'ils en souffrent ?
Oui, ils en souffrent tout à fait. Ils ont ce qu'on appelle le mal chronique des montagnes. Donc le mal des montagnes, c'est quelque chose qui peut nous toucher tous hein, quand on monte au-delà d'une certaine altitude en fonction de notre tolérance personnelle. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai eu le mal des montagnes au sommet du Mont Fuji, qui n'est qu'à 3700 mètres de hauteur. Mais pour les gens qui vivent à l'année à la Rinconada, on a un mal des montagnes qui devient chronique. Donc le mal des montagnes, c'est quoi ? C'est des palpitations, c'est des essoufflements, c'est des problèmes de sommeil, des acouphènes. Ça peut être énormément de problèmes qui, en fait, sont des premiers signes d'une maladaptation à l'altitude et qui, sur le long terme, peuvent devenir pathologiques. Donc dans les villes à 4000 mètres d'altitude, où les gens vivent plutôt normalement, on a toujours un petit peu 10% de gens qui ont un mal chronique des montagnes. Mais à la Rinconada, ça monte à 25% et c'est beaucoup plus alarmant.
Et tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Est-ce qu'il y a une façon peut-être de soulager cette part de la population, donc tu dis un habitant sur quatre, qui souffre donc de ce mal chronique des montagnes ?
Eux, à leur échelle, étant donné leur précarité, ils peuvent tout simplement descendre dans une des villes qui est à 4000 mètres ou moins d'altitude. Malheureusement, s'ils vivent de leur activité de mineur, c'est vrai que c'est très problématique. Ils n'ont pas beaucoup accès aux soins là-haut, mais une autre solution, ça pourrait être des médicaments. Donc l'expédition 5300 a organisé l'essai clinique le plus haut du monde en 2020, qui a malheureusement du coup été un petit peu interrompu prématurément par la pandémie, mais qui a quand même montré des premiers résultats encourageants. Donc ils ont essayé deux médicaments, une statine, donc c'est un médicament qui est prescrit contre les conséquences cardiovasculaires, et un autre médicament qui est généralement prescrit aux alpinistes de façon très transitoire pour augmenter la ventilation. Et c'est ce deuxième médicament, acétazolamide, qui a montré des résultats, qui a permis de diminuer un peu la quantité de globules rouges d'environ 5% et d'augmenter l'oxygénation du sang d'environ 13%. Et ils espèrent donc pouvoir voir des résultats un peu sur le long terme de ces médicaments. Pour l'instant, ils n'ont pas pu organiser quelque chose de pérenne, mais des retours de la part des habitants qui continuent volontairement à prendre le médicament sont plutôt encourageants.
Et quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que l'expédition 5300 va continuer à se rendre chaque année sur place?
Ah oui, pour l'instant, ils envisagent complètement de continuer à se rendre sur place. Donc là, la dernière expédition 5300, c'était axée sur la santé des enfants. Et ils veulent continuer dans cette voie-là, puisque notamment le gouvernement péruvien supplémente beaucoup les enfants en fer, puisque le fer, c'est essentiel pour le transport de l'oxygène dans les globules rouges. Donc ils sont très attentifs à la supplémentation en fer des enfants, mais les premiers résultats de l'expédition 5300 semblent montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de cette supplémentation en fer pour une grande partie des enfants. Et on sait que donner trop de fer, en revanche, ça peut créer des problèmes, notamment au niveau du système digestif. Donc il ne faut pas supplémenter de façon trop massive et de façon inadaptée. Donc ils ont cet objectif aussi d'être un petit peu un soutien du gouvernement local, en partenariat hein, avec tous les professionnels de santé locaux, etc., pour essayer d'optimiser la prise en charge des enfants.
Et toi, c'est un dossier que tu vas continuer à suivre pour Science et Avenir ?
Ah oui, moi je les suis depuis le début. Je continuerai à suivre cette aventure avec beaucoup d'intérêt.
Avec une opportunité peut-être d'aller sur place un jour ?
C'est-à-dire que vu mes aventures sur le Mont Fuji, à mon avis, il vaut mieux pas m'emmener.
Merci beaucoup d'avoir fait cette aventure à 35 mètres d'altitude avec moi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.